Voilà, hier, nous avons commencé à discuter à propos du sujet de deux jours. Le sujet de deux jours, c'était prier pour nos besoins terrestres. Et comme nous voulons vraiment être exaucés par le Seigneur, hier, on a commencé à méditer sur ce qui pouvait faire que Dieu ne nous donne pas ce qu'on lui demande. Donc, sur ce qui faisait que certaines choses tardent à venir quand nous les demandons, on a commencé à discuter de cela afin que cette fois-ci, nos demandes, lorsqu'on va corriger nos attitudes vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la parole de Dieu, que nous soyons exaucés. Donc, c'est ce que le Seigneur, comme nous avons donné dans le verset Jean 16, 24, il veut qu'on demande et que nous recevions afin que notre joie soit parfaite. Donc, on n'en vient pas. Il y a des grands maîtres qui ne veulent pas, qui ne veulent que souffrir pour Dieu. Mais quand on ne fait que souffrir pour Dieu, c'est, même si le Saint-Esprit est là, on tient le coup, mais notre joie n'est pas toujours vraiment parfaite. Et le Seigneur veut quand même nous donner ce qu'on demande afin que notre joie soit parfaite. Parce qu'on peut être dans la joie, dans la souffrance, mais quand on voit les réalisations du Seigneur, notre joie atteint la perfection. Voilà, c'est important. Et donc, hier, on a commencé à méditer sur ce qui pouvait faire que on a demandé telle chose, ou bien certains demandent telle autre chose, eh bien, ça n'arrive pas ou ça vient très tard. Voilà, donc nous continuons encore aujourd'hui. Il y a eu quelques réponses hier. On n'a pas la maturité de gérer la bénédiction qu'on demande. Bon, il y a d'autres qui ont dit, mais même quand on n'a pas la maturité, Dieu donne et Dieu veille. Mais là, ce n'est pas toujours simple parce que l'homme est libre, hein. L'homme a été créé libre. Donc Dieu ne peut pas veiller et s'imposer sur toi. Si toi, tu ne veux pas, ça sera toujours difficile. Il y en a qui ont aussi dit qu'on n'en avait pas besoin. Voilà, c'est une réalité aussi, il y a des choses qu'on demande, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de ça, mais nous, on pense avoir besoin de cela. Il y a des gens qui ont dit que c'était aussi à cause du fait que le Seigneur a dit chercher d'abord le royaume des cieux et donc on peut négliger le spirituel et s'attarder au matériel, donc c'est aussi des dangers. Et donc on est en train de rajouter les raisons qui peuvent faire que nous demandons. Je crois que j'avais donné aussi un élément, c'est que parfois on n'est pas prêt aussi pour la chose. Là, il y a la maturité un peu dedans, mais ce n'est pas toujours ça, parce que là, on parle vraiment de besoins terrestres. Parfois, on n'est pas prêt. J'ai cité notamment le cas des mariages. Il y a des gens, parfois, qui peuvent ressentir le besoin de se marier, mais en réalité, ils ne sont pas prêts. Le besoin d'avoir des enfants, mais en réalité, ils ne sont pas prêts. Nous, en étant pasteurs, on retrouve beaucoup de cas comme ça, où dès que le mariage, la fête est faite, 2 mois après, c'est des plaintes donc pendant 6 mois, 8 mois, une année. Donc on se retrouve avec plein de problèmes comme ça en tant que pasteur, où des gens font juste une année réelle de mariage. Et après toutes les années qui vont suivre, c'est vraiment, ils revivent en célibataire tout en étant dans la même maison ou pas. Donc c'est des réalités. Certains ont soif d'une chose, mais sans vraiment être prêt à vivre la chose. C'est une réalité aussi qu'on retrouve. Et Dieu peut freiner quand même, puisqu'il sait qu'on veut la chose, mais on n'est pas prêt à vivre la chose. Donc il peut aussi freiner à cause de cela. Voilà, nous continuons à rajouter les raisons. Il y a eu Jacques aussi qui avait été donné, Jacques 4, 3. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos convoitises. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de gens qui interviennent. Aujourd'hui, à la radio, j'ai entendu une personne, une juive, qui expliquait que sa foi est restée à Auschwitz. Donc, la souffrance qu'elle a vue là-bas, qu'elle a vécue, ben, a tué aussi sa foi en même temps, parce que elle avait crié à Dieu pour que sa mère et ses frères ne soient pas tués, éliminés. Mais ils ont été quand même tués, ils ont été éliminés. Elle dit, quand je pense à mes cousins de 4 ans, 5 ans, qui ont été éliminés à Auschwitz, donc elle a dit, ou Dieu n'existe pas, ou s'il existe, il n'est pas bon, parce que comment il peut laisser de telles choses. Voilà, nous on parle de besoins matériels, mais il y a des gens qui ont été confrontés à des situations vraiment terribles, quoi, et qui ont crié à Dieu. Mais tout ce qu'il y a eu comme réponse, c'est que la souffrance a continué. Ou alors le silence a été encore plus fort qu'avant, quoi. Voilà, ça, c'est des cas maintenant extrêmes. Il y a des cas extrêmes comme ça où les gens disent, mais il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce genre de choses? Voilà. Parce qu'on va se retrouver avec de telles personnes qui vous disent, mais j'ai crié à Dieu. On a crié, il y a des gens, parce que moi je suis souvent ces histoires-là, mais il y a quelqu'un qui a dit, mais dans la chambre à gaz, il y avait des gens qui criaient à Dieu pendant qu'on leur envoyait le gaz pour mourir, quoi. Mais bon, rien ne s'est fait. Le gaz a continué, ils sont morts. Que dire? Oui, Mylène.
Bon, déjà, par rapport à la souffrance, on sait que c'est la conséquence du péché aussi, que c'est au moment où Adam et Ève ont péché que la souffrance est rentrée dans le monde. Après, c'est vrai qu'il y a des innocents comme des coupables qui sont touchés, mais c'est pour aussi nous amener à réaliser que un jour ce sera nous et qu'on cherche le après, quoi. Donc même si tu parles des gens qui étaient dans la chambre à gaz qui ont crié à Dieu, mais peut-être qu'en criant à Dieu, ils se sont humiliés et puis après, ça leur a ouvert le ciel, en fait. Donc, bon, on ne s'arrête pas là. Il y a une vie à après la mort et c'est ça qui est le plus important.
Voilà, donc tu nous donnes deux éléments. Premier élément, c'est que la souffrance quand même a pour source le péché. Voilà. Maintenant, sans expliquer totalement non plus leur souffrance, parce que tu dis tout simplement que la souffrance a pour origine le péché, mais il y a aussi le fait que Dieu voit les choses d'une manière globale. Dieu voit l'éternité, il voit l'être dans l'éternité totale. Et c'est comme nous sommes d'accord que lorsque on nous soigne parfois à l'hôpital, ça fait mal. Donc moi, j'ai dormi une fois à l'hôpital avec ma fille, et à cause de la fièvre qu'elle avait, et donc on l'a déshabillée, on lui a mis qu'une robe et elle avait froid, mais maintenant je ne pouvais pas la couvrir, mais je n'ai pas dormi puisque j'avais l'impression que j'avais froid à sa place. Donc ce n'est pas facile, mais à un moment tu te dis, si j'étais libre de tout débrancher, de sortir avec elle, hein, mais tu te dis que c'est un moment difficile à passer qui va apporter la guérison plus tard. Donc quelque part, Dieu voit aussi les choses comme ça, la terre comme un moment difficile à passer, sachant que dans l'éternité, il n'y aura plus de soleil qui nous pique, qui nous rende malade, plus de froid qui nous rende malade, plus d'assassins, plus de cambrioleurs. Nous serons vraiment heureux une fois pour toutes. Voilà, c'est des moments difficiles qui ne sont pas à 100% expliqués. Voilà. Qui a le micro?
Je pense donc à cette dame-là qui avait crié à Dieu et tous les autres qui ont crié à Dieu dans ces camps. Je ne suis pas certain que... Enfin, je pense que Dieu a entendu bien sûr ses cris et il n'y a sans doute pas répondu comme les gens qui priaient le demandaient, mais Dieu, peut-être, dans ses plans, avait besoin de créer un choc au niveau mondial pour que les nations décident de donner une terre à Israël. Et peut-être que la prière de ces gens dans les camps qui sont morts, ils ne sont pas morts pour rien, puisque après, en 1948, les Juifs ont eu une terre. Mais s'il n'y avait pas eu ce génocide, malheureusement, les nations seraient restées aveugles, n'auraient pas pris conscience du problème.
Oui, mais j'ai parlé avec des Juifs. Hein. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour avoir une terre. Ils auraient préféré que ça n'arrive pas. Voilà. Même s'il faut être privé de terre. Et puis, certains te diront, mais oui, mais les Français, quand ils ont une terre, est-ce qu'ils ont eu à vivre l'Holocauste? Il y a des gens qui vont faire des comparaisons de ce genre-là. Voilà. En plus, c'était celui qui me faisait visiter la synagogue, donc ça devait être une autorité dans la synagogue. Mais quand j'ai attaqué ce point-là, il a dit, on n'avait pas besoin de ça. Donc, c'est une façon de dire, Dieu a mal fait les choses. Voilà. Puisque c'est un religieux qui me dit ça. Ce n'est pas un juif athée. C'est celui-là qui me fait visiter la synagogue. Il me dit, on n'avait pas besoin de ça. Donc, entre guillemets, Dieu a mal fait les choses. Donc, continuons. Oui.
On ne peut pas vraiment expliquer la souffrance, mais on peut voir que Dieu est souverain dans le sens que on n'aura pas les réponses nécessairement de toute cette souffrance. Mais il y a quand même, au-delà de ça, une foi qui nous est demandée de lui faire confiance et qu'on peut en sortir. Et puis, on peut dire à ces gens-là, comme d'autres exemples de personnes qui en sont sorties quand on les écoute. T'sais, on comprend leur...
Non, eux, ils te disent qu'ils ne se sont pas sortis. Ils ont crié, le gaz est venu quand
je
même.
Je sais, oui, oui, je sais. Eh ben, oui, c'est vrai. Mais parce que Dieu est souverain, il y a des projets meilleurs pour ces personnes-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas répondre, mais la personne humaine, elle demeure fixée sur la perte d'un bien-aimé. Et la personne dans la chambre à gaz, elle n'a pas eu la vie. Elle n'a pas eu ce qu'elle a voulu. Mais ça, c'est la limitation de la pensée humaine. La pensée de Dieu, elle est au-delà. Et si ils avaient déjà une relation avec Dieu à un certain degré, ils doivent comprendre que Dieu est Dieu et plus grand que l'homme. Il y a des bons projets pour l'homme que l'homme ne peut pas comprendre. Ça peut être dans l'au-delà, comme tu disais tout à l'heure.
Il faut que qu'on soit concret.
Ça peut être dans l'au-delà, mm-hmm. OK? Et puis, pour ceux qui survivent les pertes de ces gens-là, Dieu a la guérison, mais ces personnes-là doivent être réconciliées avec Dieu.
Oui, mais leurs difficultés, justement, Dieu ne les a pas exaucées au moment où ils avaient le plus besoin de lui pendant ces guerres-là, pendant cette persécution-là. Donc, élément qu'on retient, hein, c'est valable, hein, c'est que Dieu voit les choses aussi dans l'éternité. Parce que peut-être que quelqu'un qui arrive tout de suite à Auschwitz, on lui met le gaz, il meurt. Mais moi, je trouve qu'il a pris le TGV pour aller au ciel, alors que nous, on est encore dans les chevaux, là, dans les chariots. Lui, il a pris le TGV directement, il est au ciel. Nous, on traîne. Donc, on peut considérer ça aussi comme quelque chose de positif, mourir très vite. Quand Dieu te donne l'occasion de crier à lui. D'ailleurs, c'est écrit dans Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, on peut considérer aussi que quelqu'un qui meurt très vite, il va aussi au ciel très vite s'il prend conscience de Dieu. Voilà. Mm-hmm. Donc, Dieu peut lui faire prendre conscience rapidement. Parce que si on s'en réfère à la parabole de l'ivraie, on peut considérer et du blé, on va revenir les mardis à venir, mais on peut considérer que nous vivions longtemps, que nous vivions courtement, si on est le blé, quelque part, vaut mieux vivre courtement et aller très vite. Voilà. On peut voir aussi les choses comme ça. Si on est l'ivraie, de toute façon, on vivrait longtemps, on s'en plaindrait toujours. Voilà.
Mais la personne qui survit à tout ça, là, elle a besoin de la foi pour croire que Dieu a quelque chose de bon réservé pour elle.
C'est pourquoi on lui explique qu'il y a l'éternité. Ouais. Voilà, il ne faut pas voir les choses que d'une manière limitée, il y a l'éternité. Mais il y a aussi une petite explication que Mylène avait déjà commencé. On va y revenir. Oui. Oui. Ça ne marche pas, hein. Ok, on prend et on va revenir sur toi après.
En fait, pour un petit peu compléter ce que disait Ginette, il y a aussi des gens qui ont vécu les camps de concentration, qui en sont sortis et qui n'ont pas renié Dieu pour autant. Pourtant, ils ont vécu autant de souffrances que d'autres, sinon même pire, et ça ne les a pas amenés à renier Dieu. Au contraire, ils sont restés dans la foi avec le Seigneur. Donc, il y a aussi de la part d'une personne face à la difficulté, face, c'est aussi le fait d'accepter Dieu et sa volonté telle qu'elle est, même si on ne comprend pas, comme le passage de Job où lui-même reconnaît qu'il ne connaissait pas Dieu, quoi, qu'il l'a connu. Voilà, donc je pense que cette personne n'avait pas cette relation profonde avec Dieu pour discerner son plan ou pour accepter, en tout cas, sa volonté. Elle n'avait peut-être pas accepté comme Dieu, comme son maître, comme son... Et c'est peut-être pour ça que sa foi a baissé, quoi, ou sa foi est morte. Voilà. Puisqu'il y en a qui s'en sont sortis avec Dieu à la fin. Donc,
Oui, on peut toujours citer ça, comme tu dis. Il y en a qui s'en sont sortis dans les mêmes camps, en croyant. On peut citer ça en exemple, mais ce n'est pas, bon, c'est pas toute l'explication. Il va dire, ben, je ne sais pas comment ils ont fait, mais moi, je vois mal comment Dieu qui va laisser des enfants de 4 ans, 5 ans massacrés comme ça. Voilà. Mais c'est déjà quelque chose de positif. Dire, mais tiens, il y a d'autres qui étaient dans le même camp, eux, ils ont cru. Voilà. Il y en a même qui se sont convertis dans le camp. Oui, qui a le micro?
Oui, moi, je voulais dire, je pense que c'était un jugement de Dieu. Après, peut-être je me trompe, mais pour en revenir à cette femme où elle estime que Dieu ne lui a pas répondu, peut-être que Dieu les a interpellés avant que ça arrive. Et peut-être qu'eux n'ont pas écouté la voix de Dieu et puis Dieu a arrêté ça.
Okay.
Je pense que c'est ça.
Ça c'est un des éléments. On est en train de... Parce qu'il y a dans la sagesse de Dieu plusieurs éléments. On va lire Jérémie 11:11 pour appuyer ce que tu dis. Il est écrit ceci. Verset 10 à 11. Jérémie 11, 10 à 11. Jérémie 11, 10 à 11. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leurs pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Donc là, il y a clairement la phrase, ils crieront, mais je ne vais rien faire. Voilà, c'est des choses prévues par Dieu à un certain moment, quand il nous a prévenus, il nous a prévenus, il nous a prévenus, il nous a prévenus. À un moment, les malheurs viennent, on a beau crier, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il nous avait déjà parlé. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation en particulier? Donc, c'est vrai que depuis longtemps, le Seigneur a dit au peuple juif de ne pas s'assimiler, c'est-à-dire de ne pas être comme les autres peuples, de rester à part. Et les juifs n'ont pas écouté cette parole-là, ils se sont vraiment assimilés aux autres, ils sont devenus exactement comme les autres peuples. Il n'y avait pratiquement pas de différence. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'ils ont eu du mal à croire que Hitler serait un vrai danger. Parce qu'ils se sentaient tellement allemands, ils se sentaient tellement polonais, ils se sentaient tellement autrichiens. Alors qu'il ne fallait pas qu'ils se sentent ainsi. C'est pourquoi le chrétien aussi qui commence à se sentir trop français, trop anglais, trop, il finira dans les mêmes conditions. Donc le Seigneur dit, vous êtes à part. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et quand on s'assimile, on commence à faire les mêmes choses, vivre la même chose, se comporter de la même manière, manger de la même manière, faire tout de la même, on finit par être comme les gens du monde. Et les malheurs vont venir pour nous secouer, pour nous rappeler qu'on est différent. Et qui est-ce que Dieu utilise? Il utilise même les gens du monde pour nous dire que vous n'êtes pas du monde. C'est ça la réalité. Parce que il n'y a pas que les Allemands. Parce que quand on suit pas la chose de près, nous pensons que les Allemands seuls étaient mauvais envers les Juifs. Mais moi qui suis la chose de près, je vous dis qu'il n'y avait pas que les Allemands. Il y avait les Américains, il y avait les Russes, il y avait tout le monde. Parce que quand les Juifs, au début les Allemands ne tuaient pas les Juifs. il leur mettait la pression pour qu'ils s'en aillent. Mais quand ils voulaient partir, les Américains ne voulaient plus que les Juifs entrent chez eux. Les Anglais ne voulaient plus. Vous savez, quand vous suivez tout ça, et si vous n'êtes pas chrétien, s'il y a quelque chose qui tourne dans la tête, hein, donc vous voyez en face. Et Hitler a rigolé parce qu'ils ont fait une conférence en 1938 à Évian. Les nations ont fait une conférence pour dire qu'est-ce qu'on va faire des réfugiés. Sous-entendu, qu'est-ce qu'on va faire des Juifs que l'Allemagne chasse. Il n'y a aucun pays, la Suisse en premier, qui a levé la main pour dire « moi, je peux en accueillir un peu ». La Suisse, déjà, un Juif, c'est déjà beaucoup. En Australie, les Australiens ont dit « nous ne voulons pas les accueillir parce que ça va créer l'antisémitisme chez nous ». Donc, c'est-à-dire que si on amène les Juifs chez nous, il y a des gens qui vont les haïr, alors on ne veut pas que les gens les haïssent, donc ils restent là-bas. Donc, chacun, il y en a qui n'ont rien dit. La Suisse s'est dit, mais puisque les autres refusent, pourquoi moi je vais accepter? Aucun pays vient, mais quand vous suivez ça, ce n'est pas seulement les Allemands, c'est tout le monde qui a été contre les Juifs, tout le monde. On connaît un fameux bateau, Exodus, un bateau qui a quitté Israël pour les gens qui ont quitté, plutôt pas Israël, ont quitté l'Europe pour chercher refuge quelque part. Et ils ont été refusés dans tous les pays du monde. C'est ça d'ailleurs qui a fait que finalement, ça choque l'humanité entière. Ils se disent, bon, on va faire tout pour qu'ils aient leur terre à eux. Un bateau qui a circulé dans tous les pays du monde, de l'Amérique, en Europe, partout, ils arrivent, on dit, on ne vous donne pas les visas. Il n'y avait pas 1 million de personnes dans ce bateau, il n'y avait pas plus de 1 000 personnes. On leur a refusé. Et ils sont morts comme ça. Alors, bien-aimés. Il y a un autre bateau, on a refusé aussi qu'ils aillent. Les Turcs ont refusé que ça entre. Un tel a refusé, finalement. Les Anglais, en premier, qui ont été les plus méchants envers les Juifs, c'est les Anglais. Finalement, c'est un navire de guerre russe qui a envoyé une bombe par erreur sur ce bateau. Tous ces Juifs-là sont morts. Bien-aimés, c'est ça la réalité. Donc, les humains ont rappelé aux Juifs que vous n'êtes pas comme nous. Puisque eux-mêmes, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'étaient pas comme les autres, ben Dieu a utilisé les humains pour leur dire, vous êtes sur terre, mais vous n'êtes pas comme nous. Mais pourquoi? En réalité, parce que vous êtes de Dieu. C'est ça la vraie raison. Et donc, le chrétien qui veut l'assimilation, un jour, les païens leur diront clairement, sors, tu n'es pas de nous, tu n'es pas des nôtres. Et nous aussi, les chrétiens, nous subirons le même sort. Tous ceux qui s'assimilent, la persécution viendra au moment où on s'assimilera. Comme il faut, les chrétiens vont participer à des trucs œcuméniques, avec les bouddhistes, avec tout le monde. Quand on va faire tout ça, c'est là que le Seigneur viendra enlever son église véritable. Et les chrétiens assimilés, ils vont vivre ce que les Juifs ont vécu, mais en plus dur encore. Oui. Qui a le micro? Vas-y.
Oui, c'est bon, j'ai compris. Je voulais dire, ça fait partie des doutes de l'humanité. C'est comme Jésus à la croix. On a dit qu'un Seigneur ne peut pas mourir. Ben, peut-être le génocide aussi. Ça fait partie des doutes comme quoi Dieu n'existe pas.
Oui, ça met. Mais si on réfléchit à fond, on se rend compte que c'est l'homme qui a péché. C'est la faute de l'homme. Ça, c'est un élément très important. Il y a la faute de l'homme dedans. L'homme, quand il n'écoute pas Dieu, à un moment, Dieu aussi ne l'écoute plus. C'est une réalité. Oui.
Oui, je voudrais en venir sur celui, l'homme qui n'écoute pas Dieu. Voilà ce que nous dit le Proverbe 1. À partir du verset 23, il dit ceci. « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici... Je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me manquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Elles me chercheront et ils ne me trouveront pas.
Voilà. Donc c'est toujours dans le même esprit que Jérémie 11, 10. Voilà. Donc à un moment donné, quand on n'écoute pas, voilà, on s'entête. À un moment donné, il y a des malheurs qui arrivent et on crie. Il n'y a pas de réponse. C'est une réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on trouve quelqu'un dans la détresse, qu'on lui dise tout ça comme ça, clairement. Ça nous permet de comprendre la situation. Mais Dieu nous donnera la façon de faire pour faire parvenir toute cette vérité aux gens. Oui.
Je voulais soulever aussi un problème. Donc, puisqu'on a un choix, c'était un choix. Oui, donc je voulais soulever un problème, puisqu'on a dit que la Shoah, c'était un jugement de Dieu. Je voulais savoir que penser de tous ceux qui ont risqué leur vie pour sauver les Juifs pendant la Shoah.
Quand on dit jugement, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas le jugement dernier. Dans la Bible, on appelle aussi les jugements la conséquence du péché. Donc la conséquence de ce qu'on vient de lire, la conséquence de l'entêtement. La conséquence du refus d'écouter, il y a les conséquences. Et Dieu, ce n'est pas forcément Dieu qui commence à taper. Dieu fera ça au jugement dernier. De lui-même, il enverra les gens en enfer, au feu éternel. Ça, c'est lui qui fera. Mais pour le reste, ce sont des lois spirituelles. Quand on n'écoute pas Dieu, on finit dans l'égarement et on est frappé par ces lois-là spirituelles. C'est considéré quand même comme des jugements venant de Dieu. Voilà. Mais dans ce sens, ça ne veut pas dire que puisque les gens souffrent et qu'on discerne d'une certaine manière, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté, c'est leur faute, qu'on ne doit pas les aider. Non, on doit toujours manifester de l'amour. Hein. Voilà. Voilà. Oui ?
Oui, je voulais en revenir à ce que vous disiez par rapport au fait qu'il y a eu quand même, entre guillemets, un complot des autres nations envers le peuple juif.
Non, pas un complot, un refus. Donc ils ont été méchants, ils ont refusé. Le complot, c'est Hitler, c'est les Allemands. Mais les autres nations ont refusé d'aider les Juifs.
Mais c'est quand même les Anglais et les Américains qui sont venus quand même les...
Ah non, ils ont fait leur guerre. En faisant leur guerre...
Mais ils ont libéré quand même le camp de Auschwitz. Quand
non,
même.
Mais... Ils ne sont pas venus pour libérer le camp d'Auschwitz. Ils marchaient vers la Berlin. C'est sur leur chemin. Quand vous triomphez de vos ennemis sur un pays, mais vous les chassez. C'est cette libération-là. C'est pas comme s'ils venaient pour le camp d'Auschwitz.
Parce que c'est quand même ce qu'on essaye de nous faire croire. Parce que je regardais aujourd'hui, justement, puisque bon, ils en parlaient beaucoup. Et donc, ils marquaient sur une carte... au niveau de la Pologne, tout ça, de l'Allemagne. Et ils mettaient le drapeau des Anglais et des Américains et ils précisaient que c'était eux qui avaient été délivrés les Juifs.
Non.
Donc, en fait, ils nous mentent.
Ils ont gagné un combat. La conséquence de gagner un combat, c'est que vous expulsez vos ennemis. C'est tout. Parce qu'ils étaient au courant que les Juifs souffraient. Ils n'ont pas agi. Parce que ça, on va s'allonger. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On va s'allonger pour rien. Mais juste pour donner un dernier point, c'est qu'on leur a proposé depuis longtemps de bombarder les camps. Ils ont refusé. Mais on a des preuves, on a des photos où l'armée américaine a pris des photos des camps. On leur a dit, ah non, mais on risque de toucher les Juifs. Mais oui, mais que vous les touchez ou pas, ils vont mourir quand même. Vaut mieux attaquer les Allemands par les bombardements. Et si ça touche quelques Juifs, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, ils sont en train d'être tués. Ils n'ont pas fait. Donc ça, si je m'allonge, ça va être très long. Mais les nations ont été méchantes. Toutes les nations, sans exception, ont été très méchantes envers les Juifs. Voilà. Donc, il y a cette réalité-là qu'on s'entête, on n'écoute pas. Ça fait qu'on parfois, on appelle Dieu, Dieu n'écoute pas Dieu. Parfois, il nous donne un chemin à suivre. Il nous donne une ligne de conduite. Passe par tel chemin. Il insiste. Et on refuse. Et à un moment donné, les malheurs nous arrivent, on crie, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Il nous a abandonnés parce que nous, on l'a abandonné parce que ça fait un moment qu'il nous parle et nous, on ne suit pas. Donc, c'est... Et voilà.
Excuse-moi, pasteur, tu trouves que ce sont les nations qui ont été méchants avec les Juifs?
Oui, oui.
Ils sont un peuple de Dieu, ils se sont retrouvés chez les païens.
Ah non, ils se sont retrouvés, c'est Dieu qui a permis qu'ils se retrouvent là-bas. Mais Dieu leur avait dit de rester toujours à part. Voilà, de rester un peuple de Dieu, de ne pas s'assimiler aux autres. Voilà. Et il y a une autre raison aussi, c'est que il y a le fait qu'il n'y a pas de règles avec la propagation du mal. Parce que les gens ont tendance à croire que nous ne pouvons subir que ce que nous avons, les conséquences de ce que nous avons produit comme mal. Ça aussi, c'est une erreur qui est démontrée dès notre naissance. Parce qu'en venant au monde, ce n'est pas nous qui avons péché, commis le péché d'Adam. Mais nous subissons déjà les conséquences du péché d'Adam. Ça devait nous faire réfléchir. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils vont subir que ce qu'eux, ils ont commis comme ils ont fait comme erreur. Non, on peut avoir un mauvais président qui fait des mauvaises alliances et nous subissons parce que le président est mauvais. Donc, et ça, c'est une des raisons qui font que parfois, nous demandons des choses, c'est bloqué parce que la dimension de cette chose-là est grande. Nous demandons quelque chose pour la France. Mais ça traîne, pourquoi? Parce que les gens qui doivent changer la chose, ils sont, que Dieu doit utiliser, ils ne sont pas encore à leur place. Donc les présidents qui sont là ne sont pas ceux-là que Dieu va utiliser. Donc ça prendra le temps que ces présidents-là passent. Et quand ils vont passer, on a vu, bien-aimés, vous savez, nous on croit que, au fait, en devenant chrétien, on croit à un interventionnisme de Dieu, à la logique de la baguette magique. Un problème, Dieu tape, et puis ça se règle. Mais ça se passe pas à 100% comme ça. Dieu a la capacité de faire ça, mais l'humanité, c'est quelque chose de complexe. C'est pas comme des jouets. Je vous donne un exemple simple. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, quand il a été menacé, bébé, est-ce qu'il est resté là en disant « Dieu va le rendre invisible » ? Non. Ils ont dû fuir en Égypte jusqu'à ce que le roi change. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Il ne faut pas croire que Dieu fera toujours d'une manière spéciale parce que c'est sa volonté. Donc, donc Jésus devient invisible tout simplement, non? Il a fui. Il fallait que le roi change. Qui peut comprendre tout ça? Mais c'est la sagesse infinie de Dieu. Il sait pourquoi. Il n'a pas laissé Jésus sur place. Il a préféré fuir parce que certainement cet acte-là dépendait dans sa sagesse. C'était lié en même temps avec le sort du pays. Donc il fallait que le roi change, il fallait que tout ça. Ça allait ensemble. Nous, on peut demander quelque chose, mais qui va ensemble avec l'avenir de la France? Mais toi, tu te dis, mais on ne me donne pas. Mais parce que c'est lié avec l'avenir de la France. Il faut que la France prenne une telle direction, toi aussi ta situation est débloquée. Voilà. C'est ça la complexité des choses. Et seul Dieu peut gérer ce niveau-là. C'est là qu'on revient sur la souveraineté de Dieu. On se dit, bon, il sait ce qu'il fait. Il donnera au bon moment. Moi, je ne vois pas pourquoi il ne me donne pas maintenant. Mais bon, à la rigueur, qu'est-ce qu'on peut faire? Demander des explications. Seigneur, explique-moi pourquoi tu ne me donnes pas. Moi, je pense qu'avec les versets qu'on a reçus concernant la volonté de Dieu de nous donner toutes choses, donc quand on ne reçoit pas, le minimum, c'est de dire, bon, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné? Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Oui.
Oui, pasteur, par rapport aux Juifs, mais ils sont toujours persécutés actuellement. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas compris l'appel du Seigneur?
Mais ils n'ont pas toujours compris puisqu'ils ne se convertissent pas à Dieu, ils ne reviennent pas à Dieu. Il faut qu'ils réalisent, qui se pose cette question-là, mais pourquoi nous? C'est ça. Qui se pose cette question et qui donne la bonne réponse. Pourquoi nous? Mais si c'est la réponse, ah ben les gens ont été toujours jaloux. Mais jaloux pourquoi? Ah mais parce qu'on a des prix Nobel. Mais non, toi qui parles là, tu n'as pas le prix Nobel. Donc, si tu étais toi le prix Nobel, on comprendrait que les gens soient jaloux de toi. Donc c'est d'autres juifs qui ont le prix Nobel, ce n'est pas toi qui parles. Donc il y a quand même cette réflexion-là qui doit les amener à reconnaître qu'il y a un problème. Si tout le monde est contre eux, forcément, ça doit être lié à ce qu'ils sont dès les origines, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, ces persécutions, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis le début qu'ils sont un peuple, c'est comme ça. Voilà, donc il faut qu'ils réfléchissent. Je crois que ça va les amener à reconnaître Dieu et les choses s'arrêteront.
Je ne sais pas si ça a déjà été dit hier. En tout cas, il y a aussi une chose qui me vient. On peut aussi ne pas recevoir une chose qu'on demande au Seigneur parce que peut-être que Dieu aussi attend de nous qu'on prenne une direction ou qu'on suive un conseil ou qu'on ne comprend pas. Et le temps, tant que l'on ne comprend pas, lui, il n'ouvrira pas certaines portes ou il ne fera pas certaines choses.
Parce qu'on n'a pas saisi. En réalité, on refuse de comprendre aussi, en général.
Oui, peut-être aussi. Hein. Bon, je sais.
Oui, mais parce que lui, s'il veut que tu comprennes, pourquoi lui ne va pas faire que tu comprennes? C'est nous qui refusons de comprendre.
Aussi, certainement. Voilà. Enfin, bon, moi, je n'ai pas réfléchi à ça, mais en tout cas, voilà quoi.
Oui, parce que comme on a dit que Dieu voulait tellement nous donner, alors mais pourquoi nous ne recevons pas parfois? Donc, on sait que le problème, c'est nous, parce qu'on a, on a donné les versets qui montraient que Dieu veut vraiment nous donner. Donc, c'est peut-être que nous, on n'a pas cherché aussi à être dans sa volonté, comme tu dis. Il nous donne une voie, on ne veut pas suivre. Et je compléterai en disant, je crois que certaines choses, on les a dans notre marche avec lui. C'est-à-dire, un exemple, Dieu te demande, tu demandes une voiture. Dieu te dit, j'ai une mission pour toi, prends le train, va à Paris. Et non, moi, Seigneur, je suis ton enfant, il faut une voiture. Mais il dit, mais non, obéis d'abord, prends le train, va à Paris. Or, il a prévu que c'est là-bas que tu aies ta voiture. Donc, certaines bénédictions sont liées à notre évolution. Donc, c'est comme des... On a un chemin et il y a certains jeux de société qui sont comme ça, hein, sur le chemin, sur ton parcours, c'est là que tu... récolte les choses qui ont été prévues pour toi. Et certains sont étonnés. Vous savez, les vrais chrétiens sont souvent étonnés. Ils n'ont pas demandé, ils ont reçu. Juste parce que leur cœur désirait. Mais ils n'ont pas demandé clairement. Ils n'ont pas dit, Seigneur, donne-moi ça. Mais leur cœur quand même désire quelque chose. Paf! À un moment donné, ils reçoivent ça, ils ne comprennent pas. Mais je n'ai pas prié. Et c'est pourquoi? Parce que c'est dans ta marche. Donc, tu es arrivé au bon endroit où était déjà cette chose-là qui était réservée pour toi. Donc, il faut, ça nous appelle à marcher vraiment comme Enoch, en amitié avec le Seigneur, chaque jour, en communion avec lui. Dans notre marche se trouve, dans notre parcours se trouve ce que nous attendons, tout simplement. Ça ne change pas le fait qu'on continue à prier, toujours demander quand on veut demander. Oui.
Les Juifs sont appelés à être vraiment encore à part comme...
Ah oui, mais ça n'a pas changé.
Alliance, même un juif messianique, même un juif qui devient chrétien.
Mais non, mais un juif chrétien, c'est encore pire, parce que même le chrétien était aussi appelé à être à part, donc lui, il a double à part. Donc à part en tant que juif, à part en tant que chrétien, c'est encore plus grave.
En tout cas, quand on pense à ça, nous, en tant que chrétiens, bon, ici, à cette assemblée, ici, on est pas mal... un peu plus à part, parce que beaucoup d'églises sont tellement à l'imitation du monde, c'est vraiment... ils sont dans le monde.
Mais on finira, donc les chrétiens finiront, subiront la même chose. Quand leur assimilation deviendra très grande, c'est là que la tribulation viendra. Donc Dieu, c'est là que l'enlèvement se fera, Dieu va enlever les vrais chrétiens et ceux qui vont rester... ben, subiront un sort plus grave que ceux des Juifs pour réaliser que bon, ils n'ont pas voulu de Dieu et Dieu les livre maintenant. Voilà, donc deux questions pour finir. Il y a Frel derrière.
Oui, c'est plus un constat en fait. Quand on regarde les programmes, les informations et les différents débats, on se rend compte que les personnes maintenant insistent plus quand ils parlent de laïcité. Ils insistent plus sur le fait de mettre en avant, comme tu as dit tout à l'heure, le pays, être d'abord français, et ensuite on a notre parti privé, c'est-à-dire ce qui entre dans la sphère privée, c'est-à-dire la religion, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment un discours qu'ils sont en train de marteler de plus en plus. Et dernièrement, il y avait la ministre de l'Éducation nationale qui était passée sur une antenne, et elle a vraiment axé là-dessus, quoi. D'abord, on est d'abord français, et on est juif ou chrétien bien après. Donc c'est pour dire aussi que c'est un mouvement vraiment qui va...
L'assimilation, voilà. Donc on voudrait que tu sois du monde, voilà, ouais. Clairement. Donc tu ne peux pas être chrétien, il faut que tu sois du monde, il faut que tu sois du pays. Et donc on doit résister à cette assimilation-là. Parce que si on ne résiste pas, on perd la puissance spirituelle et donc les forces des ténèbres prendront le dessus. Et puis pour clôturer, il y a le passage simple d'Ésaïe 59. Non, ma main n'est pas courte. Voilà, pour vous bénir. Mais si je ne donne pas, c'est à cause de vos péchés. Voilà, donc ça, c'est un passage que nous connaissons. Le péché joue un rôle de blocage par rapport au fait que Dieu ne donne pas certaines choses parce qu'il ne veut pas donner l'impression qu'il encourage le péché. Il veut qu'on se réveille et qu'on commette notre vie en règle. Ce n'est pas... on a donné plusieurs éléments, hein, mais ce n'est pas les mathématiques, ce qu'on est en train de dire. Donc, il ne faut pas que chacun se dise, bon, il y a deux, donc, je ne me retrouve pas dans ceci, je ne me retrouve pas dans cela, donc Dieu doit me donner, non. Donc, il faut que... Le but de tout ça, c'est que chacun médite sur son cas personnel. Voilà, à partir de tous ces éléments que nous avons donnés depuis hier, que chacun médite sur son cas personnel. Pourquoi Dieu ne me donne pas telle chose? Parce qu'il y a possibilité de plusieurs raisons. Mais ce n'est pas pour dire commencer à faire des maths et considérer un, deux, trois, non. C'est pour nous faire réfléchir et que nous puissions vraiment nous mettre sur le parcours du Seigneur, dans la communion avec lui. Et je clôture avec le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Voilà, donc c'est si nous voulons tout avoir, c'est ça, fais de l'Éternel tes délices. Et nous avons le cas terrible avec la maman de Samuel, Anne. Donc elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te l'offrirai au service au temple. Donc elle a fait de l'Éternel ses délices. Le Seigneur lui a donné ce que son cœur désirait. Voilà, donc nous clôturons avec cela. Le passage pour demain, c'est Luc 10-19. Luc 10, 19. 1 Jean 4, 4. Luc 10, 19. Matthieu 10, 16. Voilà, Matthieu 10, 16. Luc 10, 19. 1 Jean 4, 4. Matthieu 10, 16. Donc, demain, nous allons prier pour détruire tout ce que nous considérons comme étant attaque des forces des ténèbres dans nos vies, dans nos familles et dans le corps du Christ. Donc, nous allons appliquer Marc 16, 17 qui dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc nous allons détruire les œuvres des ténèbres. 1 Jean 3, 8 aussi le dit. Bon, on a donné seulement trois passages pour que ce ne soit pas long à travailler. Donc on se retrouve demain pour la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu accomplis encore en nous donnant des possibilités de réflexion concernant le non-exaucement de certaines prières, de certaines demandes, Seigneur. Tu nous as donné les possibilités, Seigneur, nous prions que tu nous aides à méditer là-dessus et à mettre notre vie en règle afin que ta main nous donne ce que notre cœur désire. Aide-nous vraiment, Seigneur, à faire de toi nos délices, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous aurons ce que notre cœur désire. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci d'agir dans ta puissance et dans ton amour et de nous préparer pour la prière de demain. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous venons prier en particulier pour le peuple juif, Seigneur, que tu suscites des gens qui vont leur prêcher la parole, qui vont les ramener à toi, Seigneur, des gens qui vont les faire réfléchir pour leur dire, mais pourquoi tout ça? Pourquoi les nations vous haïssent? Afin qu'ils réalisent que ce n'est pas à cause de leur intelligence ni à cause de l'argent, mais c'est vraiment parce qu'ils sont ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi dans ta puissance, dans ton amour. Et nous prions que ceux qui ont perdu la foi à cause de l'Holocauste, Seigneur, puissent retrouver la foi à la fin de leur vie. Seigneur, que tu leur expliques, que tu leur parles, Seigneur. Que tu guérisses les blessures anciennes et que tu leur parles dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi. Seigneur, merci d'agir et de faire en sorte que les chrétiens prennent conscience qu'ils subiront le même sort s'ils ne se repentent pas pour se mettre à part, Seigneur. Au nom de Jésus, nous nous attendons à toi. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.